Bonjour, je suis Megda, la fondatrice de Wire PhD. Wire PhD est le podcast qui donne la parole aux chercheuses et aux chercheurs qui évoluent dans la sphère universitaire ou de manière indépendante. Parce qu'il y a autant de chercheuses et de chercheurs que de manières de faire de la recherche, j'ai voulu aller à leur rencontre. Dans chaque épisode, ces passionnés vous partageront les processus qui les ont menés sur cette voie, les thématiques qui les habitent, mais également leur cheminement, parfois traversé de joie, doutes, remise en question, mais aussi réussite. J'espère que cela vous inspirera et éveillera votre curiosité. Vous pouvez soutenir Wire PhD en ajoutant 5 étoiles sur les plateformes d'écoute et en nous suivant sur les réseaux sociaux. Bonne écoute! Dans ce nouvel épisode enregistré dans le cadre du Podcaston 2025, une initiative qui rassemble des podcasteuses et podcasteurs pour mettre en lumière des causes qui nous tiennent à cœur, nous accueillons Rita Pindia, responsable des programmes chercheurs et entreprises au sein du Réseau Curie. Le Réseau Curie est une association qui accompagne depuis plus de 30 ans les acteurs et actrices de la valorisation de la recherche publique en France. Au fil de cet échange, nous avons abordé le rôle clé de la valorisation de la recherche pour transformer les découvertes scientifiques en innovations concrètes au service de la société, les différents mécanismes de transfert de technologies et de collaboration avec les entreprises, les outils et initiatives du Réseau Curie pour sensibiliser et accompagner les chercheuses et chercheurs dans cette démarche. Et petit bonus, nous avons également abordé les défis auxquels font face les chercheuses et chercheurs qui souhaitent entreprendre après leur doctorat. En résumé, un épisode riche pour mieux comprendre comment la recherche publique contribue à répondre aux grands enjeux sociétaux d'aujourd'hui et de demain. Bonne écoute.
Bonjour Rita.
Bonjour.
Vous êtes responsable des programmes chercheurs et entreprises au sein du Réseau Curie. Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu plus votre parcours?
Bien sûr, pas de souci. Alors moi, ça fait 15 ans que je travaille dans l'écosystème de l'innovation et plus particulièrement celui de la recherche publique. Je suis effectivement actuellement responsable des programmes chercheurs et entreprises. Donc ça, ce qui inclut la sensibilisation des chercheurs à la valorisation et à l'entrepreneuriat, et également pour le volet entreprise, la mise en relation des chercheurs et doctorants avec le monde de l'entreprise et les entreprises en général. Mais je fais pas que ça. Je suis également responsable du programme d'accompagnement des pôles universitaires d'innovation. C'est un programme d'accompagnement à destination donc des PUI qui a été lancé l'année dernière et pour lequel le réseau Curie a été lauréat. Donc c'est moi qui vais me charger de ça. Et je suis également chef de projet événementiel puisque c'est moi qui m'occupe de l'organisation de notre congrès annuel, le congrès Curie, et qui rassemble plus de 700 personnes dans une ville différente chaque année.
Est-ce que vous pouvez présenter un peu plus le Réseau Curie?
Bien sûr. Alors, le Réseau Curie, c'est une association loi 1901. Cette association a plus de 30 ans d'existence aujourd'hui et compte plus de 220 membres, 225 pour être très précis. Nos membres, en fait, sont ceux qui produisent la recherche publique tous les jours et qui ont une activité de valorisation. Donc, ça va englober les universités, les grandes écoles, les organismes de recherche et les CHU, mais également les filiales de valorisation de ces établissements et divers acteurs de l'innovation.
D'accord. Vous avez parlé de valorisation de la recherche. Est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est que la valorisation de la recherche et pourquoi elle est essentielle aujourd'hui?
Alors, bien sûr. La valorisation de la recherche publique, c'est le processus qui va permettre de transformer les découvertes scientifiques issues des laboratoires de recherche en innovation utile pour la société.
D'accord.
Si je schématise à outrance, ça va inclure un processus en fait pour les professionnels de la valorisation. Ça va aller de la sensibilisation dont je vous parlais, la sensibilisation des chercheurs aux questions de valorisation parce que c'est pas forcément inné, on va dire, chez tous les chercheurs. La détection des technologies potentiellement valorisables dans les laboratoires, la protection de ces technologies. Leur développement par des phases de ce qu'on appelle de maturation technologique, donc c'est-à-dire de d'amener une technologie au plus proche du marché dans l'objectif de la lancer sur le marché. le transfert, donc la signature de contrat entre une entreprise, par exemple, et un établissement, et enfin, évidemment, la mise sur le marché. Et en fait, la valorisation, pour résumer, c'est trois voies de valorisation principales. Le transfert de technologie, donc c'est la concession de licence d'exploitation sur des technologies à des entreprises, la collaboration de recherche, où une entreprise décide de rechercher sur un même sujet en partenariat avec un laboratoire, donc il y a une mise en commun de moyens, et également la création d'entreprise.
D'accord, donc c'est un accompagnement de bout en bout, si je dois résumer.
Absolument.
Et donc pourquoi la valorisation de la recherche est essentielle aujourd'hui ?
Alors la valorisation de la recherche, elle est essentielle aujourd'hui parce qu'elle encourage l'innovation et la compétitivité. Ça permet aux entreprises d'accéder à des technologies, à des ressources qui se trouvent dans les laboratoires. La valorisation, c'est essentiel parce que ça permet de répondre aux défis sociétaux dans le domaine de la santé, de l'environnement, de l'énergie, du numérique par exemple. Et ça permet d'apporter des solutions concrètes, à ces grands enjeux contemporains. Ça permet d'optimiser l'investissement public en recherche parce que par la valorisation, on obtient des royalties qui permettent de refinancer la recherche derrière. Et évidemment, ça renforce la collaboration entre les chercheurs et les entreprises.
Oui, en résumé, ça permet de créer un cercle vertueux dans cet écosystème dans lequel vous jouez un rôle clé. Quelles sont les missions concrètes du réseau Curie pour accompagner justement les professionnels de la valorisation ?
Alors, les missions du réseau Curie, nous, on a une activité de réseau, je le dis souvent, classique, comme tous les réseaux de professionnels. Une de nos activités principales, c'est de proposer des formations aux professionnels de la valorisation. On est agréé organisme de formation et c'est quelque chose qu'on fait depuis 30 ans. C'est vraiment, c'est dans le cœur de notre métier. Mais également, comme tout réseau, on favorise les échanges entre nos membres. Je vous parlais du congrès Curie dont je m'occupe et qui est évidemment un lieu d'échange entre nos membres, mais également on a des commissions thématiques qui se réunissent régulièrement sur divers sujets qui concernent le domaine de la valo. On a la commission juriste, la commission sciences humaines et sociales, la commission entrepreneuriat, ou encore la commission innovation hospitalière et recherche clinique. On distribue aussi le cahier de laboratoire. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais le cahier de laboratoire, c'est le compagnon du chercheur. C'est un cahier dans lequel il va consigner ses travaux de recherche. Et ça va servir de preuve ou de commencement de preuve, en tout cas, dans le cadre d'un dépôt de brevet. On mène également une enquête nationale sur la filière, ce qui permet de rendre plus concret le concept de valo, parce qu'on est très conscient que c'est pas quelque chose de très connu, malheureusement. Et grâce à cette enquête, ça permet de donner des chiffres. Par exemple, on a 184 millions d'euros de revenus total d'exploitation en propriété intellectuelle en 2023. D'accord. pour le secteur. Et également, et je vous le disais, c'était quand je me suis présentée, on mène aussi des actions vers les entreprises de sensibilisation pour les sensibiliser au fait qu'elles peuvent en fait innover grâce à la recherche publique, parce que ça c'est pas forcément inné chez elles non plus, et on leur propose des services de mise en relation avec les établissements publics de recherche.
D'accord. Est-ce qu'il y a de la mise en relation aussi avec des chercheurs pour du recrutement, ce genre de choses ? Est-ce que, de fait, ça les sensibilise aussi à des profils plus chercheurs ?
Alors nous, en fait, c'est vrai qu'on est très axé valorisation. Évidemment, la carrière du chercheur nous intéresse. C'est des sujets, évidemment, qui nous préoccupent. Maintenant, nous, on est vraiment sur le volet valorisation de la recherche. Donc, c'est pas quelque chose qui est dans notre cœur de métier, même si c'est évidemment des sujets qui nous intéressent.
Quel type d'initiative proposez-vous pour aider les chercheurs et chercheuses, les professionnels, à mieux appréhender la valorisation ?
Alors, nous, au Réseau Curie, on travaille toujours de la même manière, c'est qu'on va fournir à nos membres, donc les professionnels de la valorisation, des services pour les aider dans leur quotidien. Et donc, je vous le disais, la valorisation, ça inclut la sensibilisation. Donc, on va leur fournir des services pour qu'ils puissent mieux sensibiliser leurs chercheurs. C'est toujours de la même manière qu'on... Nous, notre cible première, évidemment, ce sont les valorisateurs et à travers eux, les chercheurs.
D'accord.
Et donc, du coup, comme outil, ce qu'on propose, on a, par exemple, un MOOC qui s'appelle « Innover avec la recherche publique », qui va d'ailleurs tourner d'ici quelques semaines. Les inscriptions sont ouvertes, il est gratuit, accessible à tous. Et ce MOOC, en fait, qu'on a développé avec la SAT West Valorisation, donc une SAT, c'est une société d'accélération de transfert de technologie. Donc, on l'a développé avec la SAT West Valorisation, ce MOOC, et c'est une formation en ligne et certifiée à destination des chercheurs et doctorants pour qu'ils puissent appréhender ce que c'est la valorisation et pourquoi est-ce qu'ils devraient valoriser leurs résultats de recherche. On organise également une journée à destination plus de nos membres, celle-ci des sensibilisateurs, parce qu'il y a vraiment des gens qui font de la sensibilisation des chercheurs tous les jours.
Vous avez également un programme dédié à l'entrepreneuriat.
Oui.
Comment vous accompagnez les chercheuses et les chercheuses et chercheurs qui souhaitent se lancer à leur compte ?
Alors, nous, de toujours de la même manière, on va plutôt adresser nos membres et leur donner des outils pour oui. faire cette sensibilisation à l'entrepreneuriat. Et c'est pour ça qu'on a créé, il y a 10 ans maintenant, parce que le programme va fêter ses 10 ans en 2025, le programme des Innopreneurs.
D'accord.
Donc, ce sont les Innopreneurs, c'est principalement un site internet, c'est des ressources en ligne où les chercheurs et les doctorants peuvent se rendre parce qu'il y a des informations sur l'entrepreneuriat issues de la recherche publique. Donc voilà, ça fourmille d'informations, etc. Il faut surtout pas hésiter à y aller. On propose également des ateliers de sensibilisation. Donc on fait sur les principes de co-création, d'intelligence collective. On propose des ateliers pour sensibiliser les chercheurs aux questions d'entrepreneuriat. On a également un Serious Game. Toujours gratuit, accessible en ligne. C'est un serious game. Alors souvent les valorisateurs, ils s'en servent. C'est plus avec les doctorants, ils l'utilisent pour qu'ils puissent faire passer des concepts sur l'entrepreneuriat. Mais il est accessible en ligne, donc n'importe qui peut y aller pour aller faire une partie de ce serious game. Et on a également une chaîne YouTube où on propose des témoignages de chercheurs, de doctorants qui se sont lancés, qui ont créé une entreprise, mais également des valorisateurs sur la manière dont ils ont accompagné pour que ça rende plus palpable pour les chercheurs et les doctorants ce qui peuvent attendre des services de valo dans ce cadre-là. Et puis, il y a des vidéos plus pratiques sur les questions d'entrepreneuriat.
Et donc, concrètement, si je veux bénéficier de tous ces outils, je vais juste sur le site du réseau Curie
Absolument. Alors, c'est le site dédié aux innopreneurs. Donc, c'est sur lesinnopreneurs.com.
D'accord. Et d'après vous, quels sont les défis majeurs que rencontrent les chercheuses et chercheurs qui veulent entreprendre ? Là, c'est un sujet qui émerge depuis quelques années parce que c'est à la mode d'être à son compte. Le Covid est passé par là, donc beaucoup de freelance, beaucoup de chercheuses et chercheurs envisagent maintenant cette voie après le doctorat. Est-ce que, en accompagnant justement ce type de public, vous avez identifié certaines problématiques ?
Alors effectivement oui, nous ça fait 10 ans maintenant qu'on interviewe des chercheurs et des doctorants qui se sont lancés et on leur pose en fait cette même question, c'est quel conseil vous donneriez à d'autres chercheurs qui souhaiteraient se lancer, etc., quels défis, etc. Et donc du coup en premier lieu ce qui revient le plus souvent c'est ils conseillent en fait d'oser se lancer, d'oser y aller. Parce qu'en fait, finalement, c'est le premier pas. C'est lorsqu'on est chercheur ou qu'on est doctorant, on est dans son laboratoire, on est sur ses travaux de recherche. Et c'est vraiment se lancer, passer le pas, de se dire, voilà, je vais explorer, je vais voir, c'est vraiment oser. Ensuite, ce qui va revenir le plus souvent, c'est l'équipe. Parce que effectivement, un chercheur ou un doctorant, il va dans son domaine, il va être très très compétent, mais il faut qu'il sache aussi s'entourer parce que une entreprise, c'est pas que une idée, c'est pas que une technologie, c'est aussi une équipe derrière en marketing, en gestion financière, et c'est vraiment l'équipe qui est le plus important. Se former aussi, c'est important, parce que la création d'entreprise, il y a des choses à savoir, il y a des choses à maîtriser, et vraiment l'idée, c'est de pas hésiter à se former. Le paysage regorge de formations et d'initiatives, etc. Mais malgré tout, c'est vraiment un passage obligé. Et enfin, et ce qui peut et fait souvent la différence, c'est le réseau.
Oui.
Le réseau, et encore une fois, le paysage, il y a énormément d'initiatives et de dispositifs pour se mettre en réseau, et malgré tout, c'est primordial.
Pour conclure notre échange, j'aimerais vous poser une question. Comme vous le savez, YEPSJ est le podcast qui donne la parole aux chercheuses et aux chercheurs, et j'aimerais vous demander pour vous, qu'est-ce qu'être chercheuse ou chercheur ?
Alors, je suis moi-même pas chercheuse. Néanmoins, pour en côtoyer pas mal régulièrement, je dirais être chercheur ou chercheuse, c'est mettre ses compétences au service du futur. Et mettre ses compétences au service du futur, ça peut se faire de deux façons, et on les oppose souvent. C'est la recherche fondamentale, qui est une spécificité française et pour moi une fabuleuse opportunité. Je pense qu'il y a tellement de choses qui sont issues de travaux de recherche fondamentale, mais il y a également la recherche appliquée qui est plus axée innovation et qui est plus axée marché, mais qui est tout aussi fascinante. Et il faut que chaque chercheur et chercheuse garde en tête que ces découvertes ont un potentiel de valorisation.
Super. Merci beaucoup Rita pour cet échange très intéressant, très riche.
Avec plaisir.
À très bientôt.
À très bientôt.
Merci à Rita pour cet échange passionnant sur la valorisation de la recherche et l'engagement du réseau Curie auprès des chercheuses et chercheurs et des doctorantes et doctorants. Si vous souhaitez en savoir plus sur les outils et programmes présentés dans cet épisode, rendez-vous sur le site lesinopreneurs.com ou sur curie.asso.fr. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un nouvel épisode.